Et voilà, nous sommes à la fin de la saison des Raptors. Patrick Bizindavi avec vous au micro. Je suis avec mon invité Mike Laviole. Bonjour Mike.
Bonjour Patrick et bonjour à tous les auditeurs.
Mike et moi, ça fait plusieurs années qu'on couvre les Raptors ensemble. Il a son propre podcast. Il est aussi journaliste à l'Express. Mike, on va faire le bilan de la saison des Raptors. On a laissé les joueurs s'exprimer, on a laissé le coach s'exprimer, on a laissé Masai s'exprimer. C'est maintenant à notre tour. On va passer à travers la saison qui vient de se terminer. Pour toi, quel bilan fais-tu de la saison en général des Raptors cette année?
Ah, une saison difficile à vivre d'un point de vue, on va dire, de fan. De notre côté, on a eu beaucoup de choses à couvrir, on peut dire ça comme ça, parce que on a eu en quelque sorte, si on peut dire, trois saisons en une, avec énormément de changements. Déjà un nouvel entraîneur, ensuite des départs majeurs avec OG Anunoby, puis Pascal Siakam, et ensuite une saison qui semblait bien repartir, et puis des blessures qui ont vraiment mis fin à tout espoir, et une équipe qui a, comme on dit en anglais, tanké, qui a fait en sorte de perdre le plus possible de matchs à la fin de la saison, volontairement ou non, parce que c'est vraiment aussi un concours de circonstances. Mais au final, une saison, je pense qu'on n'avait pas imaginé à ce point. Je sais que nous, on avait fait une preview de cette saison et on fait toujours des scénarios positifs, négatifs et on va dire au milieu. Et là, je pense que ça va au-delà du scénario négatif. On n'imaginait pas les Raptors ne pas aller au play-in avec l'effectif du début de saison. Mais au final, l'effectif a explosé. Donc, on espère une meilleure saison l'année prochaine, que l'équipe va vite rebondir.
Oui, oui, c'est vrai. Mais si on se met à la place d'un fan, nous, on est là tous les jours. On suit ce qui se passe. Des fois, on a des informations que les fans n'ont pas, des fois. Mais pour les fans qui suivent les Raptors, comment est-ce que tu peux expliquer justement cette saison? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que beaucoup de circonstances qui ont... Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça ne marche pas?
Tout simplement, je pense que la direction n'a pas choisi entre reconstruire et vouloir être compétitif, tout simplement, en gardant Siakam, en gardant OG Anunoby, en gardant des joueurs majeurs, mais en même temps, en ayant une autre partie de l'effectif qui était assez jeune et en recrutant un nouvel entraîneur, Darko Rajakovic, qui est quand même un entraîneur de développement. Donc, on l'a vu en début de saison, il a essayé de bâtir son équipe autour de Scottie Barnes, mais tout en ayant un joueur comme Pascal Siakam qui, on se rappelle, au début d'année, était sous-utilisé parce que vraiment, on voulait mettre en avant Barnes. Au final, l'équipe offensivement était à la ramasse. On avait la pire attaque, c'était même historique par rapport à la NBA. Et en fait, il a dû rectifier le tir, mais en sortant de sa philosophie de jeu qu'il voulait mettre en route et en remettant en avant Pascal Siakam. Donc du coup, en fait, on a été dans ce début de saison confronté à ce tiraillement entre reconstruire et en essayant d'être compétitif parce qu'on avait des joueurs compétitifs. Mais au final, on a bien vu qu'il y avait ces histoires de joueurs qui étaient en fin de contrat. Siakam, OG Anunoby, il fallait prendre une décision par rapport à eux. Et la décision a été prise au mois de décembre et en janvier pour Siakam de finalement se séparer d'eux et de vraiment repartir sur une nouvelle dynamique. Peut-être un choix qui aurait dû être fait dès le début de l'année ou dès cet été. C'est ce que beaucoup de fans et d'observateurs peuvent reprocher un peu à la direction, c'est de ne pas avoir pris la direction plus tôt, puisqu'on l'a vu dès l'été, Fred VanVleet qui est parti. C'était peut-être là le signal pour se dire, OK, on ne sera pas compétitif, il faut vraiment repartir sur un nouveau cycle. Et ça a été fait, malheureusement, on va dire, au milieu de saison.
Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de décisions qu'il fallait prendre, on n'est pas à la place de la direction. L'année passée, lorsque Masai Ujiri, le président de l'équipe, faisait le bilan, il a dit, je répète ces mots, que l'équipe était un peu égoïste. Ah, donc d'où Darko, un nouveau coach qui est arrivé avec un nouveau système. Est-ce que tu penses avec le système Darko, le système offensif Darko, est-ce que ça a répondu à cette question de dire que l'équipe était égoïste avec le nombre de passes quand même qui a augmenté au cours de la saison? Est-ce que ça a répondu à cette inquiétude de Masai Ujiri?
Ça, c'est vraiment le gros point positif de cette saison, en fait, malgré le bilan qui est totalement négatif. C'est que vraiment, Darko Rajakovic a construit quelque chose offensivement. On voit un système qui fonctionne, des joueurs qui se passent la balle. Finalement, après, avec les départs de Siakam et d'OG Anunoby, on l'a vraiment vu qu'il a mis en place un système autour de Barnes avec un jeu collectif qui marche vraiment très bien. Record de passes décisives décisif sur une saison, en ayant un bilan négatif, c'est quand même assez exceptionnel. Et je pense qu'on va en parler après. Vraiment, le gros chantier de l'été pour la saison prochaine, ça va être la défense. Mais du côté de l'attaque, du point de vue de l'attaque, je pense que c'est mission réussie pour Darko Rajakovic, qui aussi a été un bon gestionnaire des égos dans l'équipe, de la gestion humaine, tout simplement. On sait que c'est son point fort. On a pu le voir même nous-mêmes. C'est même pas juste avec les joueurs, c'est avec tout le monde,
avec
en fait.
Tout le monde, ouais.
C'est quelqu'un qui est... qui vraiment se soucie des gens. Même nous, il vient nous voir, il discute avec nous. Il m'a comparé avec un entraîneur italien. C'était assez drôle. Mais oui, voilà, de ce côté-là, c'est mission réussie. Mais maintenant, ils l'ont dit également dans les interviews d'après-saison, l'objectif, c'est quand même l'année prochaine d'être compétitif, de gagner des matchs, parce qu'on ne peut pas vivre deux saisons comme ça. Même d'un point de vue de revenus pour la franchise et tout ça, ils ont encore augmenté les tarifs des places. Il y a eu une question à ce sujet pendant la conférence de presse de Masai Ujiri. Les Raptors ne peuvent pas se permettre...
Le prix des billets, oui.
Les Raptors, je pense, ne peuvent pas se permettre... Deux saisons comme ça, c'est pas possible.
Tu en as parlé un tout petit peu, le départ de Fred VanVleet pour Houston. Et là, on a Dennis Schroeder qui vient avec sa médaille d'or à la Coupe du Monde de basket. Et on a des espoirs, on a un bon meneur, un bon vétéran. Et finalement, il ne finit pas la saison avec les Raptors. À ton avis, qu'est-ce qui n'a pas marché avec Dennis Schroeder?
Masai a qualifié ça d'échec lors de son interview de fin de saison. Je trouve que c'est un peu sévère. En soi, ce qui n'a pas marché, c'est que peut-être qu'il était très proche de Darko Rajakovic, et Darko Rajakovic voyait en lui un titulaire. Je pense que ça, c'était peut-être une erreur. On a vu après, dans la suite de la saison, il est repassé sur le banc, en sortie de banc. Ce rôle-là avec la second unit, je trouve que c'était vraiment bien plus intéressant. Et puis surtout avec ce 5 de départ qui manquait énormément de shooters, avoir ce meneur-là qui n'est pas... Même s'il avait bien débuté la saison sur les quelques premiers matchs, il était dans le rythme, on va dire, de la Coupe du Monde, mais une saison NBA, c'est très long, c'est 82 matchs. Il a pas soutenu ce rythme-là. Au bout d'un moment, on a vu que ses performances ont diminué, son adresse a diminué. Je pense qu'il y avait un problème de, comment on dit en anglais, de fit avec ce 5 de départ qui, de toute façon, ça a été une des grosses problématiques de la saison, était pas très bien construit. Et puis, au final, comme on l'a dit à l'instant... le fait de s'être séparé de Siakam et de OG Anunoby, ça a peut-être donné un effectif à Darko Rajakovic qui allait plus dans le sens de ce qu'il voulait faire, avec des joueurs vraiment capables de se passer la balle, moins jouer en isolation, parce qu'on sait que Siakam, ces dernières années, a été énormément utilisé en isolation. On a vu aussi OG Anunoby qui, malheureusement, dans le jeu que prône Darko, avait peut-être ses limites par rapport à tout ce qui est dribble, par rapport à son jeu en pénétration, des choses comme ça. Et on a vu l'arrivée de RJ Barrett qui, justement, lui est un joueur à l'aise avec le ballon, capable d'aller jouer dans la raquette, de faire des pénétrations, ce que peut-être OG n'était pas trop capable de faire. On a essayé de lui donner ses possibilités, mais ça n'a pas forcément marché. Et ouais, on a récupéré, je pense, des joueurs qui matchaient plus avec ce que veut faire Darko Rajakovic. En tout cas, offensivement, pour l'instant.
Oui, c'est ça. Mais justement, un des problèmes en attaque, c'était, tu l'as mentionné, la sous-utilisation de Pascal Siakam. Et nous, on était vraiment tristes de le voir partir. Notre francophone qui était toujours disponible pour des entrevues. Mais dans tout ça, Pascal est resté très professionnel. On savait qu'il y avait des soucis au niveau de son utilisation, et puis il y avait des rumeurs qui, les gens disaient qu'il était donc en train de faire sa dernière saison. Mais comment est-ce que tu as vécu justement la situation, Pascal? Comment tu peux faire un peu le, comme fan, comme reporter aussi, toute cette saga autour de Pascal Siakam?
Bah, ça a été compliqué, c'est vrai. Mais je pense qu'on le sentait venir. Il y avait déjà eu des rumeurs pendant l'été. Je l'avais d'ailleurs sorti sur ONFR. J'avais fait un article dès le mois de juillet sur la possibilité de voir Pascal Siakam quitter les Raptors. Je pense qu'il y avait une volonté de le faire pendant l'été. Ils n'ont pas réussi à trouver les contreparties qu'ils cherchaient. Ensuite, il y a eu cette histoire d'essayer de récupérer Damien Lillard pour essayer d'être à l'inverse compétitif. Mais pareil, je pense que par rapport à Lillard, ils sont toujours restés bloqués sur cet entre-deux de pas vouloir totalement gagner maintenant et garder cette envie de développer. Et au final, ils n'ont pas donné les assets nécessaires aux Blazers pour récupérer Lillard. Je pense que ça aurait pu se faire en faisant un petit effort supplémentaire. Bon, en tout cas, ça, c'est du passé maintenant. Après, Siakam, c'est vrai, il a été très, très professionnel. Quand on voit quand il était très, très peu utilisé dans les quatrièmes quart-temps, il avait très peu la balle en main. Au début de saison, il était carrément utilisé comme shooter dans le
Dans le
coin.
coin, ouais.
C'était assez hallucinant de voir ça. Mais comme tu l'as dit, il est resté pro, il s'est pas plaint. Il n'a jamais fait de vague dans les médias ou quoi que ce soit. Il est parti à Indiana. Quand on l'a vu revenir, on sentait quand même de l'amertume parce qu'il a quand même dit qu'il voulait rester aux Raptors. C'est ça qui est assez dingue, et c'est ça qui est désolant un petit peu, c'est que pendant des années, les Raptors n'arrivaient pas à garder leur star. DeMar DeRozan était peut-être la première star à vouloir faire toute sa carrière à Toronto. Il a été échangé contre Kawhi, mais bon, c'était
Ah, on...
un mal pour un bien,
Ouais,
on
c'est
va dire.
ça.
Et là, on a un autre joueur majeur de la franchise qui déclare vouloir rester, hein. C'est pas lui qui l'a dit, mais c'était ses représentants qui l'ont fait comprendre. Même lui, il nous l'a dit après. Et au final, on s'en sépare aussi. Donc, c'est dans ce sens-là que ça fait un petit peu mal parce que c'est difficile de trouver des joueurs de ce niveau-là. En plus, c'est un joueur que les Raptors ont développé. On s'attendait même pas à ce qu'il atteigne ce niveau-là. Donc, ça a été difficile, mais au final, quand on voit la suite des événements, je pense que c'était logique.
Oui, est-ce que les Raptors ont eu en retour la même valeur que Pascal Siakam? Parce que il a été échangé à Indiana, on a eu Bruce Brown en retour. Est-ce que la valeur qu'ils ont reçue en retour, est-ce que c'est égal à ce qu'ils ont donné en termes de Pascal? Comment est-ce que tu vois justement ce qu'ils ont eu de retour par rapport à cet échange avec Indiana?
Je pense que le plus important dans cet échange, c'est vraiment les tours de draft. Pour l'instant, si on compare par exemple à l'échange avec OG Anunoby, où on a vraiment eu deux joueurs très intéressants en la personne de Quickly et
Et
Barrett,
Barrett, ouais.
là on peut se dire vraiment le trade a été remporté. Je pense que pour Siakam, ça sera sur le long terme qu'on saura. En fait, ça va dépendre des joueurs que les Raptors ont récupérés à la draft, au repêchage. S'ils parviennent à trouver un joueur qu'ils arriveront à développer. Donc le choix sera autour de la 13e place, je crois, ou la 19e, je ne sais plus, j'ai un doute. Ça sera à vérifier. Mais 13e, je crois. Si les Raptors arrivent à trouver un joueur qu'ils peuvent développer, on pourra se dire peut-être dans 3-4 ans, ils n'ont pas perdu ce trade de Pascal Siakam. Après, on sait que c'est toujours compliqué puisque c'était sa dernière année de contrat. Donc les équipes ne sont pas prêtes à échanger monts et merveilles contre des joueurs pour lesquels ils savent pas s'ils vont les garder la su saison suivante. Mais va falloir voir parce que Bruce Brown, les Raptors peuvent récupérer aussi une contrepartie. Je ne sais pas si son avenir est à Toronto. Jordan Nwora, je sais pas s'il a convaincu pour re-signer aux Raptors. Et après, ça sera ses choix de repêchage, voir ce que les Raptors vont en faire. Et je pense que c'est à partir de là qu'on pourra juger. Pour l'instant, c'est compliqué. En
Ouais.
soi, oui, quand on voit le trade là, avec les joueurs que les Raptors ont récupérés, on peut se dire, oui, ils sont clairement perdants, mais je pense qu'il faudra vraiment voir sur le long terme.
Et là, donc Pascal part à Indiana, mais les Raptors perdent OG Anunoby, il y a Precious Achiuwa, Malachi Flynn qui partent tous à New York. C'est quand même, défensivement, c'est une grosse perte. C'est énorme, même physiquement, c'était des joueurs imposants. Mais là, on a Quickly, on a RJ. Je pense que là, c'était clair, c'était la jeunesse. C'était bien placé, les joueurs autour de Scottie Barnes. Donc, la dernière partie de la saison où on a vu Quickly, RJ Barrett, comment est-ce que tu vois le futur des Raptors autour de ces joueurs-là?
Je pense qu'ils se sont donné les moyens d'avoir une équipe compétitive sur le moyen terme. Il y a vraiment de quoi développer avec Quickly et Barrett. Je pense qu'ils sont très complémentaires de Scottie Barnes. C'était vraiment le plus important. Mais après, la problématique, et là, tu as touché le truc, c'est que défensivement, les Raptors se sont énormément affaiblis, ne serait-ce que physiquement. En fait, à partir du moment où ils sont séparés de ces joueurs-là, avec ce qu'ils ont eu en retour, l'équipe n'était plus athlétiquement en mesure de défendre en NBA, surtout après avoir perdu en plus Scottie Barnes et Jakob Poeltl. À partir de ce moment-là, en fait, c'est même pas que les Raptors perdaient volontairement, c'est que en
Il n'avait pas
fait,
les joueurs
ils
pour...
n'avaient pas les joueurs pour
Ouais.
défendre au niveau NBA, tout simplement. Le pivot titulaire, c'était Kelly Olynyk, qui est normalement un
En
remplaçant,
remplaçant,
un
ouais.
très bon remplaçant en sortie de banc, mais qui n'est pas un titulaire en NBA et qui
Et
surtout est un.
défensivement, c'est
Il faut
pas...
dire les mots, c'est un très mauvais défenseur.
Ouais.
Kelly Olynyk, c'est un très mauvais défenseur. On l'a vu avec le Canada aussi l'été dernier. C'est une vraie problématique. Il a besoin d'un excellent défenseur à côté de lui. Donc pour moi, l'année prochaine, ça ne va pas être un souci puisque normalement, il devrait avoir Scotty Barnes qui devrait jouer avec le second unit à côté de Kelly Olynyk. Ce n'est pas un bon défenseur de 1 contre 1, mais il est quand même intelligent. Il sait se placer. Mais le problème, c'est que si c'est lui qui doit protéger ton cercle, c'est comme s'il n'y avait personne, en fait, tout simplement. C'est même pas pour être méchant, mais c'est la réalité de Kelly Olynyk. Et ensuite, à côté de Kelly Olynyk, dans le 5 de départ, on avait 4 arrières.
C'est ça.
On n'avait aucun joueur, je pense, de plus de 2 mètres.
Et quand Kelly Olynyk sortait, il n'y avait même pas de remplaçant.
Il n'y avait même plus de remplaçant. Il y a eu John T. Porter, mais on sait ce qui s'est passé. Parfois, il ne jouait pas pour les raisons qu'on connaît, les paris et tout ça. Et en fait, oui, il n'y avait plus de centre à côté de lui. Ils en ont signé un à la fin, Malik Williams. Mais
il a fait 3 matchs sans marquer aucun point.
C'était très compliqué pour lui. C'est un joueur qui n'avait même pas le niveau de la G-League. Il a été relâché par les Sioux Falls en G-League. Donc, c'était vraiment pour faire le nombre et avoir un joueur qui a de la taille. Bon, il a fait un match à 16 rebonds. C'est bien pour lui. C'est un beau record en carrière que peu de joueurs ont. Donc, il pourra au moins mettre ça dans son CV. Mais honnêtement, tout simplement, les Raptors n'avaient plus le niveau défensif NBA. Mais ce que je trouve de bien, c'est que offensivement, c'est resté intéressant tout le temps. Parce que certes, ils se prenaient des 120, 130, 140 points, mais souvent, ils en mettaient aussi au-dessus de 110. Quoi. C'était vraiment... Et puis, Quickly et Barrett ont vraiment montré des progrès par rapport à New York. Quickly dans la création, dans tout ce qui est passe décisive, mettre le jeu en place. Je pense que c'est vraiment son domaine où il doit progresser. Il a déjà montré des progrès. Et puis, RJ Barrett a affiché les chiffres les plus efficaces de sa carrière.
De sa carrière.
Tout simplement, Darko Rajakovic a expliqué qu'il lui a dit, en fait, t'as pas besoin de te compliquer la vie. Tu vas au cercle. Si tu peux pas marquer, tu ouvres sur tes coéquipiers, tu fais des passes.
Et il le fait bien.
Tu ne prends plus de tir à mi-distance, ça sert à rien. À 3 points, tu les prends quand t'es ouvert, mais tu ne t'amuses pas à pull-up face à des adversaires quand c'est devant toi. C'est juste du catch and shoot. Et en fait, on a réussi à avoir la meilleure version de RJ Barrett offensivement. Donc, je trouve que c'est vraiment encourageant pour la saison prochaine. Surtout que je pense que s'il règle son petit problème de lancer franc, on dirait que les Raptors ont récupéré une malédiction, tu sais, du match du play-in contre Chicago, où ils n'ont pas mis un lancer. Ça a été un problème pour toute l'équipe, toute la saison. C'était hallucinant. Je pense qu'avec un été, il va mettre ça de côté. RJ Barrett qui met ses lancers, vu qu'il provoque énormément de fautes, je pense qu'on peut avoir un RJ Barrett autour des 23 ou 25 points la saison prochaine pour accompagner Scotty Barnes. Donc, c'est intéressant. Et puis, comme on en avait eu déjà la discussion dans un de mes podcasts, en fait, les Raptors, en ayant eu tous ces blessés, ils ont fait jouer leurs remplaçants contre des titulaires. Et je pense que ce mois et demi, ces 2 mois vont leur être bénéfiques parce que pour
l'année prochaine.
En fait, tu as une second unit qui s'est entraînée pendant 2 mois contre des titulaires et qui l'année prochaine vont jouer contre des autres second units. Ça va leur paraître beaucoup plus facile et on aura un 5 titulaire qui pourra vraiment assurer. On l'a vu, le 5 titulaire, ce n'était pas sur un grand échantillon, mais... Avant la blessure de Scotty Barnes, les Raptors restaient sur 3 victoires de suite et ça commençait vraiment à être très, très intéressant. Donc, moi, je suis quand même plutôt optimiste pour la saison prochaine.
Oui, la saison prochaine, espérant qu'il n'y aura pas un nombre aussi élevé de blessures qu'on a vu cette saison. C'était comme une malédiction. Mais justement, en parlant de développement, avant, on sait avec l'équipe championne de 2019, il y avait quand même pas mal de joueurs, Pascal, et Fred et puis Norm qui étaient passés par les 905, mais qui avaient autour d'eux des vétérans comme Kyle Lowry et les autres. Comment est-ce que ce volet développement, tu peux le juger cette saison? Parce que les 905 n'étaient pas aussi compétitifs que les 905 qu'on a eu dans les précédentes saisons. Comment est-ce que tu vois cet aspect développement? Parce que le coach, c'est un bon coach de développement, mais le fait d'avoir les 905, ça permet justement... On a vu avec Grady Dick, le temps qu'il est passé aux 905, le travail qu'il a fait, au retour, ça a été comme une explosion. Comment est-ce que tu peux juger justement l'aspect développement avec les 905?
C'est vrai que les 905, depuis, je sais pas, 2-3 saisons, je trouve, peut-être 2, puisque la dernière avec Patrick Mutombo, c'était quand même pas mal. Ouais, depuis ces 2 dernières saisons, malheureusement, je trouve que c'est un échec. Ils n'ont pas réussi à développer vraiment des joueurs qui ont ensuite été capables de transposer leur jeu en NBA. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qu'ils vont devoir revoir. Peut-être avec un changement d'entraîneur. Je sais que Eric Khoury arrive sur la fin de son contrat de 2 ans. Est-ce qu'il faut repartir avec quelqu'un d'autre? Peut-être quelqu'un que Darko Rajakovic aura choisi, puisque Khoury est arrivé l'année dernière.
Ce n'était
pas un choix de Darko. Peut-être. Peut-être que Darko pourra mieux transposer ses méthodes avec quelqu'un qui l'aura choisi pour les 905. En tout cas, normalement, les Raptors peuvent avoir deux ou trois choix de draft là, bientôt, en juin
prochain.
S'ils
décident de les prendre.
S'ils décident de les prendre, bien sûr. Ouais. Mais il n'y aura pas de la place pour tout le monde dans l'effectif NBA. Donc, je pense que certains vont se retrouver en G League. Donc ça, c'est un volet très important. Grady Dick, ça a été une réussite, même si ses passages en G League, étonnamment, n'étaient pas bons. Ça lui a quand même permis de jouer et ensuite d'avoir un bon passage sur cette fin de saison. Je ne sais pas si c'est plus le passage en G League ou vraiment le programme de renforcement physique qu'ils lui ont fait faire pendant un mois. En tout cas, au moins ça, c'est quelque chose à mettre dans la colonne des plus, l'évolution de Grady Dick, parce que c'est vrai que son début de saison, c'était assez inquiétant. On faisait les malins côté Raptors, on a réussi à choper le meilleur shooter de la draft c'était vraiment c'était vraiment dur à voir, même s'il faisait bien les autres choses. C'est ce qu'on a noté dès le début.
Il défendait.
En fait, il faisait tout bien, sauf tirer.
Sauf marquer.
Et en fait, on l'avait recruté pour tirer. Donc, c'était compliqué. Mais finalement, son tir est arrivé petit à petit. Je pense qu'il y avait un temps d'adaptation avec la distance NBA. Et puis, il nous a fait une belle fin de saison. Et ça aussi, c'était prometteur pour la suite.
Un autre point positif aussi qu'il faut marquer, c'est la présence des vétérans avec Thad Young, avec Gary Temple, qui ne jouaient pas nécessairement beaucoup de temps avec les autres, mais leur présence s'est fait bien sentir, même en dehors du terrain. Comment est-ce que tu peux justement juger la présence de Thad Young, qui est parti plus tard, maintenant il est au Phoenix, au Suns de Phoenix. Donc Thad Young et Gary Temple en tant que joueurs vétérans, quel a été l'apport justement de ces deux joueurs dans l'effectif des Raptors cette année?
Je pense que l'apport était important. D'ailleurs, sur les interviews de fin de saison, beaucoup de joueurs ont mentionné Garrett Temple, un peu moins Thad Young parce qu'il était parti, mais en fait, vraiment, quand tu as une équipe jeune, l'importance de ces vétérans-là, c'est de leur apprendre la routine de la NBA, comment se comporter en NBA, quelles sont les choses à faire, quelles sont les choses à ne pas faire, et montrer l'exemple. Et je pense que c'est ce que Garrett Temple a extrêmement bien fait, puisqu'il n'a pas joué de la saison, mais quand on a eu besoin de lui sur la fin d'année où il y avait beaucoup de blessés, il a vraiment répondu présent. Il a montré que, en fait, tu ne joues pas, mais quand tu joues, t'es professionnel, t'es payé pour ça. Et en fait, il a vraiment été exemplaire, en fait. Même à jouer des rôles qui ne sont pas habituels pour lui. Il n'y avait pas de pivot. Allez, tu fais 1m95. C'est pas grave, tu vas jouer pivot. Ou un peu plus, je crois. Il fait 1m98 ou vers les 2 mètres. Mais
c'est pas son poste.
C'est pas son poste et ouais. Il n'a pas la taille pour ça. Et il se battait, il montrait l'exemple. Je pense qu'il a été très, très important auprès de Scottie Barnes, qui a dit, il a dit expressément dans son interview de fin de saison que vraiment, il essayait de discuter un maximum avec Garrett Temple pour partager sur des situations de jeu, sur des choses comme ça. Donc, non, je pense que ça a été un rôle très, très important auprès des jeunes. Et Garrett Temple a dit qu'il voulait rester aux Raptors.
Il voulait rester, ouais.
Donc, Masai, à toi de jouer. Il faut le re-signer parce qu'il a un rôle très important. Puis, en plus, c'est toujours bien d'avoir un membre du syndicat des joueurs dans l'équipe.
Oui, c'est ça. Ça peut aider. Il est vice-président, ouais.
Voilà, il est vice-président. Donc, même par rapport à des questions peut-être contractuelles ou des choses comme ça, je pense que c'est une bonne chose. Peut-être l'erreur des Raptors en début de saison, c'est d'avoir trop de vétérans pas vraiment capables de jouer. Après, Thad Young a offert des minutes pareil au poste de pivot parce que les Raptors ont malheureusement perdu Christian Koloko qui n'a pas pu jouer de la saison en raison de graves problèmes de santé. Un autre francophone qui est parti, on n'en a plus malheureusement. Il nous reste RJ Barrett.
RJ Barrett, oui, des fois il dépanne. tu as parlé de Kelly Olynyk, mais il n'est pas venu seul, il est venu avec Agbaji, qui a été annoncé comme un jeune qui va beaucoup contribuer au niveau de la défense. Au début, je sais que tu étais déçu de ses performances. Est-ce qu'il s'est racheté les derniers matchs qu'il a pu jouer?
J'avais mis la barre un peu trop haut pour lui dès le départ parce que je ne le connaissais pas forcément très, très bien. On ne va pas se cacher. Je n'ai pas trop suivi Utah. Mais il était vraiment présenté comme un très gros défenseur. Et c'est vrai que sur les premiers matchs, mais bon, j'ai été sévère avec lui, je pense, parce qu'aussi, il faut s'adapter à un nouveau système, des nouveaux coéquipiers, savoir les tendances de chacun, comment défendre. Et je trouve qu'il est quand même monté en puissance. sur la fin de saison.
Et puis il est très, très athlétique aussi.
Très, très athlétique, ouais. Parce qu'il n'est pas très, très grand en soi. Ouais. C'est pas un ailier. Ouais. C'est pas encore les joueurs de 2m5, 2m6, 2m8 dont les Raptors ont besoin. Mais au moins, il défend, ce qui manque énormément à cette équipe. Je pense que ce qui va vraiment lui permettre d'avoir du temps de jeu ou pas la saison prochaine, ça reste quand même le côté offensif parce que c'est très, très irrégulier dans son adresse à 3 points. Et on sait que maintenant, en NBA, quand tu es gros défenseur, si tu n'as vraiment pas d'apport offensif, ça peut être compliqué pour toi de jouer. On l'a vu qu'il y a pas mal de joueurs qui sont dans ce profil-là et que tant qu'ils ne développent pas leur tir ou au moins un apport. Ce qui est bien dans l'attaque de Darko, c'est que si tu peux cut, tu peux aussi apporter des choses offensivement.
Le système offensif est fait que tu as ton opportunité.
Mais malgré tout, je pense qu'il va falloir qu'il s'améliore dans le tir pour s'il veut vraiment avoir des minutes avec constance la saison prochaine.
Ouais.
C'est affaire à suivre. On va suivre aussi l'un des dossiers de l'été, c'est Gary Trent Jr. Si Gary Trent Jr. s'en va, ça libère énormément de temps de jeu. Si Gary Trent Jr. reste, là, ça va être plus compliqué parce que c'est quand même un joueur à 25-30 minutes par match. Donc,
c'est ça.
Après, on faudra se poser les autres questions, mais ça, je pense qu'on en discutera plus tard quand on saura s'il reste ou
s'il
pas.
Est-ce
que Gary Trent Jr. C'est un starter au poste d'arrière à côté de Quickly dans un backcourt qui pourrait être un petit peu trop faible défensivement.
Surtout au niveau de la taille aussi. Alors, on a vu des départs. Et puis, bon, Pascal, oui, on sait ce qu'il peut faire. Mais Oji arrive à New York. Là, le monde commence à voir ce que nous, on voyait tous les jours, que les autres n'ont pas eu l'occasion de voir un Oji. Precious Achiuwa qui explose dans le système défensif de New York. Mais aussi, il faut dire, avec Flynn, qui n'a pas eu de temps de jeu à New York, mais quand il est parti à Détroit, là, il fait un match de 50 points. Est-ce que ça, c'est vraiment une marque de développement, justement, au niveau des Raptors, qui a pu développer ces joueurs-là, qui n'étaient pas aussi dans le repêchage, ils étaient peut-être second round, mais qu'ils ont pu développer. Et puis, quand ils ont été relâchés du système des Raptors, ils ont quand même pu performer.
Ouais, pour moi, déjà, Precious Achiuwa, c'est une grande déception de l'avoir laissé partir. On sait qu'il a ses qualités et ses défauts. Peut-être que l'erreur, c'est... Parce que des fois, il y a des joueurs, il faut leur donner la liberté, et d'autres, il faut peut-être les restreindre. Et peut-être qu'en lui donnant trop de liberté... Darko ne l'a pas exploité à son meilleur. Mm-hmm. J'ai l'impression qu'il est plus restreint dans un certain rôle du côté de New York et ça lui va mieux, il est plus canalisé parce qu'on sait qu'avec Toronto, quand il commençait à partir dans ses dribbles et tout ça, c'était pas toujours...
Nous aussi, on était inquiets. Oh, qu'est-ce qu'il va faire
Exactement. Mais c'est vrai que le potentiel défensif, il est énorme. On l'a vu dans la série contre les Sixers il y a 2 ans.
Ouais.
Il défendait sur tout le monde. C'est un défenseur élite. Et en fait, New York a récupéré non seulement un candidat au titre de meilleur défenseur de l'année en Oji Anunoby, mais a récupéré un gars en sortie de banc qui peut prendre le relais d'Oji et qui est énorme défensivement. Donc, c'est un petit regret de ne pas l'avoir conservé. Mais bon, il y avait un prix pour récupérer RJ Barrett et Emmanuel Quickly. Après, Malachi Flynn, on peut donner du crédit, je pense, à Darko, qui l'a quand même relancé mentalement. Il lui a donné sa chance. Il était... Le meneur remplaçant
et
derrière,
le temps de jeu, oui,
il avait le temps de jeu derrière Schroeder. C'était pas toujours fou, c'était pas des performances exceptionnelles, mais petit à petit il trouvait sa place, il montrait qu'il était un joueur NBA. Et bon, après il a fait comme il fait toujours en fin de saison, parce que c'est ça le truc avec Malachi Flynn, c'est que chaque année en fin de saison il nous donnait des espoirs en faisant des gros matchs, et là il a vraiment explosé le plafond en étant le joueur avec la plus petite moyenne de l'histoire à mettre 50 points dans un match. Alors qu'il n'était même pas censé jouer ce soir-là, il y a eu une blessure dernier moment de Kate Cunningham, je crois. Mais de toute façon, après, on sait, en NBA, tous les joueurs sont talentueux peuvent faire ce genre de choses. On le voit pendant l'été, quand ils vont dans les ligues
semi-pro. Il a marqué 73 points.
Ils font des matchs à 70 points parce qu'ils sont quand même au-dessus du commun des mortels, si on peut dire ainsi. C'est l'élite, hein, c'est les 300 meilleurs joueurs au monde. Mais après, c'est le mental. Je pense qu'au moins, peut-être, il s'est offert une chance d'avoir un contrat suivant en NBA, un nouveau contrat. Faudra suivre ça. Je ne sais pas si ça aura été suffisant pour convaincre Détroit.
Rester, ouais.
Mais en tout cas, moi, je pense qu'il a un avenir, quoi qu'il en soit, dans le basket européen. Il ferait des cartons en Europe, hein, à l'image de ce que fait le meneur de Monaco, j'ai perdu son nom, qui était au Nets avant. Maintenant, c'est devenu...
Mais même Kemba Walker, il est parti en Europe.
Bon, lui, il a plus de difficultés, mais ce meneur-là, donc j'ai perdu le nom, mais il fait partie des meilleurs meneurs de l'Euroleague maintenant. Mm-hmm. Donc, je pense que quoi qu'il en soit, Malakai, il a un avenir... Il va faire une carrière longue, que ce soit en NBA ou en Europe. Moi, je le verrais bien en Europe. Je serais très intéressé.
Un autre point aussi négatif, si on peut le dire ainsi, c'était McDaniels. Je vois ton visage quand je prononce son nom. C'était...
Doit-on parler de ce joueur?
C'est ça, il a été critiqué partout. Mais Darko dit qu'en plus, il est toujours sous contrat l'année prochaine. Que dire justement de sa performance cette année?
C'est très décevant. On s'attendait à beaucoup mieux, forcément. Peut-être Darko se dit qu'il ne peut pas tomber plus bas, donc forcément, il va avoir... quand tu touches le fond, tu remontes. Donc on se dit l'année prochaine, peut-être qu'il va... Parce que si tu regardes ses saisons aussi en NBA, c'est vrai que c'est une sur deux qui est bonne, surtout dans son adresse à 3 points, par exemple. Mais vraiment, l'attitude a été décevante, en fait. C'est que, OK, tu n'as pas réussi à te faire une place sur le début de saison, mais en fait, tu as toute une fin d'année où, en soi, on ne joue plus rien et Darko donne la chance à tout le monde. Et en fait, son attitude, elle était juste exécrable. Ouais. On ne le sentait pas impliqué, nonchalant, pas dans les systèmes, à tenter des choses. Alors que d'autres, malgré tout, ont profité du système qui offre des possibilités à tout le monde si tu joues correctement. Et puis défensivement, c'est là où c'est surtout décevant parce que c'est le joueur qui avait de la taille, justement. Et il était soft, quoi. C'était un joueur soft en défense. Alors que sa pré-saison était très intéressante.
Oui, oui. Il a bien joué la pré-saison. La pré-saison. Même le début de la saison, on se disait, OK, ça va...
Oui, il avait pris la place de Chris Boucher.
Ouais.
Et puis non, finalement, c'est... Donc, il a une année de contrat en plus. Normalement, il sera là l'année prochaine. Darko est très gentil avec tout le monde. Il dit rarement du mal de ses joueurs. Donc, je pense qu'il y a de l'espoir de le voir. Je pense qu'il peut être que meilleur de toute façon l'année prochaine.
Ouais, c'est ça.
Après, est-ce qu'il sera meilleur en étant bon pour apporter? On verra, mais de toute façon, il sera là.
Mais de toute façon, les joueurs en fin de contrat, c'est quand même assez... Les joueurs en fin de contrat, ça donne aussi des possibilités d'échange. Si les gens veulent... avoir un contrat, quelqu'un en fin de contrat, oui. En parlant de Chris Boucher, justement, là, est-ce qu'on a vu le dernier match de Chris Boucher dans les mains des Raptors? Parce qu'il est toujours sous contrat, mais je ne pense pas qu'il soit dans l'avenir de l'équipe. Est-ce qu'on a vu le dernier de Chris Boucher?
C'est possible, hein? C'est possible. Après, oui, il va falloir surveiller les transactions de l'été. Est-ce que les Raptors vont trouver une porte de sortie à Chris Boucher qui n'a pas vraiment l'air de rentrer dans les plans de Darko Rajakovic, qui a été un peu, entre guillemets, forcé de le faire jouer parce qu'il est rentré dans un match, il a été performant, il a changé les choses. Après, il s'est blessé et Darko a dû lui donner quelques minutes parce que, malgré tout, c'est un joueur qui apporte, en fait.
Ouais.
On connaît ses forces, on connaît ses faiblesses. On sait que Chris Boucher a parfois des limites sur des erreurs de placement défensif, mais il va toujours apporter cette énergie. Il va toujours apporter du rebond offensif, de la finition, du tir à 3 points quand ça rentre. Ce qu'il faut, c'est juste qu'il n'en prenne pas trop, parce que des fois, il a tendance à un peu s'emballer sur le tir à 3 points. Mais en soi, c'est un joueur qui apporte dans une rotation NBA. Après, c'est vrai que son âge ne va pas totalement avec la timeline actuelle des Raptors. Je ne sais pas s'il a une âme non plus de leader et de mentor, parce que c'est un joueur qui arrivait très tard en NBA.
Ouais, c'est ça.
Qui arrivait très tard dans le basket aussi, qui n'a peut-être pas forcément les bases et les connaissances.
Les fondamentaux.
Les fondamentaux, c'est ça, t'as touché le bon mot. Qui n'a pas forcément les fondamentaux pour transmettre aux autres joueurs, je pense. Je ne sais pas si c'est un joueur qui pourrait être un mentor et qui serait utile dans ce rôle-là. Je ne sais pas si c'est un rôle qu'il a envie d'embrasser aussi.
Ouais.
Peut-être qu'il a envie d'aller jouer ailleurs, donc on va surveiller ça. Mais c'est fort possible que c'était son dernier match. Et j'ai retrouvé le nom du meneur de jeu, c'est Mike James.
Mike James.
Fait partie maintenant des meilleurs joueurs de l'Euroleague avec Monaco.
Oui, c'est ça. Donc, parlons maintenant d'avenir, la saison prochaine. Oui, c'est clair, ils ont mis les rênes de l'équipe dans les mains de Scotty Barnes. Là, il est entouré des jeunes, Quickly, RJ, et puis Grady Dick, Agbaji, avec bien sûr des vétérans qui sont là depuis longtemps, Yak et puis Olynyk. Comment est-ce que tu vois justement l'avenir, même à partir de la saison prochaine, dans les mains de Scotty Barnes? Est-ce qu'il est prêt pour justement prendre les rênes de l'équipe vers une autre coupe, d'ici, parce que Masai parle toujours de gagner?
C'est drôle, quand tu me disais ça, j'avais l'image de Darko Rajakovic en conférence de presse après le match des Lakers, là où il a fait son scandale. Scotty Barnes is the all-star, he's the face of the league.
C'est l'image, oui, c'est ça.
Bah oui, je pense que de toute façon, ça va se construire autour de Barnes. Masai Ujiri aussi a vraiment dit dans sa conférence de presse que le plus dur, c'est de trouver ce joueur majeur, ce franchise player. Donc, je pense que toute l'organisation pense qu'il est ce genre de joueur. Donc, ça va se construire autour de lui, sans aucun doute. Les questions pour la saison prochaine, et on en a déjà parlé, ça va être défensivement. Les Raptors ont des choix de repêchage. Je pense que vraiment, la priorité doit être mise sur des ailiers assez longs qui sont capables de défendre plusieurs postes. Vraiment pour... En fait, ce qui est drôle, c'est que le joueur qui manque aux Raptors aujourd'hui, c'est OG Anunoby. Et ce sera le joueur agent libre parmi les meilleurs de la prochaine free agency. Donc, c'est ça qui est assez drôle. Je ne pense pas que les Raptors vont signer.
Ah non, je ne pense pas qu'ils vont signer.
Mais il faut trouver un joueur de ce calibre-là. On va attendre la loterie qui est en mai pour savoir si les Raptors vont conserver ou pas leur choix de repêchage qu'ils ont envoyé aux Spurs. On rappelle qu'il est protégé top 6. Les Raptors ont fini avec le 6e pire bilan. Ils ont 46% de chances d'avoir un choix dans le top 6. Donc 46% de chances de conserver ce choix-là. S'ils en ont un plus bas, il ira au San Antonio Spurs. Mais il y a 3 choix de draft dans la prochaine. Donc Masai Ujiri a été interrogé là-dessus. Il a dit... on fera avec ce qu'on a. Les Raptors ont démontré par le passé qu'ils étaient capables de faire des merveilles avec des joueurs repêchés plus bas. OG, tu l'as dit, Pascal, c'est en dessous de la 20e place. Donc, peut-être OG, c'est 17, j'ai dit une bêtise. Mais en tout cas, ce n'est pas des
lotteries. Norman Powell.
Fred VanVleet n'était même pas
drafté. Même pas drafté, oui, c'est ça.
Donc, c'est des capacités que les Raptors ont de développer des joueurs, même si, comme on l'a dit tout à l'heure, ça s'est moins vu ces derniers temps. Ils ont moins réussi à trouver la perle rare. Mais aussi, et ça, on en a souvent discuté, comme tu me le disais souvent, les jeunes qui arrivaient avant étaient entourés par des joueurs...
Des vétérans
à qui il fallait prendre leur place.
Ouais.
Maintenant, il y a plus grand monde à qui prendre la place. Et c'est vrai que les joueurs arrivent direct et ont un statut déjà plus élevé dès qu'ils arrivent. Donc, c'est plus compliqué de trouver ce côté compétitif. C'est vrai qu'on l'a dit, là, cette année, les vétérans, c'est des joueurs qui ne jouent pas. Donc, ils peuvent montrer l'exemple, mais en soi, ils ne sont pas sur le terrain pour te guider. Donc, ça va être intéressant. Moi, j'espère que au prochain repêchage, ils récupèrent des ailiers. Je peux donner des noms parce qu'il y a plein de Français
j'allais en venir. Avant, on avait l'embarras de choix de joueurs à qui poser des questions en français. On avait Serge Ibaka, on avait Siakam, on avait Chris Boucher, mais avec le temps... Là, on reste avec RJ Barrett qui répond une phrase ou deux, Max. Bien sûr, on a Coach Wade qui parle français. Mais est-ce qu'il y a des joueurs francophones que les Raptors pourraient signer après cette année pour que nous, on puisse avoir des gens qui posent des questions?
C'est mon grand espoir parce qu'on a une draft qui arrive où dans le top 10, devrait y avoir 3 Français qui ont en plus... le profil que j'ai décrit, au moins pour 2 d'entre eux, c'est Salin et Rizaché. Rizaché est prévu beaucoup plus haut, autour du top 3. On a Alexandre Sarr, qui lui est un centre qui est très athlétique et qui peut développer un petit tir à mi-distance, qui joue du côté de l'Australie. Mais lui, pendant longtemps, il était attendu comme le numéro 1. Mais là, ça a un petit peu bougé maintenant. Il y a un meneur qui s'appelle Topić, qui est serbe, qui monte un peu dans les mock drafts, comme on appelle ça. Donc, il va falloir suivre ça. Déjà que les Raptors aient leur top 8. Et voilà, il y aura ces 3 possibilités, Alexandre Sarr, Rizaché ou Salin. Et puis après, il y a d'autres Français un petit peu plus bas. Il y a le fils de Alexis Aginsa, Melvin Aginsa, qui pourrait être une
Un
cible.
ancien Raptors, Aginsa qui a été
Exactement.
oui.
Et il y a Yves Missi, qui est un pivot camerounais,
Camerounais, oui.
qui est du côté de Baylor, je crois, et qui, alors moi, pour suivre Envergure, c'est les spécialistes des prospects français, donc ils font ça en français, ils sont très très bons là-dessus. Ils l'ont fait énormément monter dans leur tableau, leur big board, comme ils appellent. Il était plutôt autour de 13, 14, 15 ces derniers mois. Et là, dernièrement, ils l'ont monté en 8e. Donc, c'est un pivot, en fait. C'est un peu comme Joel Embiid. Il est arrivé très tard au basket. Il est très athlétique, énorme, énorme en défense. Et comme il a commencé le basket tard, tu peux imaginer qu'il y a vraiment une courbe de progression qui peut être intéressante. Donc, voilà un peu des noms à suivre. Après, ça ne veut pas dire que Masai il va
Ouais.
prioriser des joueurs qui parlent
Qui parle
français.
français
Je
juste
pense que
pour
ce n'est
nous.
pas son problème. Il va plus regarder
Il a
les
dit Patrick et
potentiels.
Mike, ils ont besoin de
Ah, Patrick et
francophones.
Mike, là, il faut leur donner un petit peu de quoi parler. Mais non, on verra. En tout cas, il y a des joueurs. Il y a des joueurs. Cette draft, elle est annoncée comme faible, entre
Faible,
guillemets,
ouais.
parce qu'il n'y a pas forcément de potentiel de joueurs qui seront des stars ou des
Il n'y a pas de
superstars. Il n'y a pas de
Wembanyama.
Wembanyama. Mais en fait, pour moi, les Raptors n'ont pas forcément besoin de stars s'ils peuvent trouver des très forts role players. Et je pense que cette draft, elle est pleine de role players qui seront très forts. Et avec, pourquoi pas, là, des fois, il y a toujours des surprises. De toute façon, Massa, il a dit,
Il a dit,
la draft
ouais,
de Rudy Gobert, de Giannis
Yanis,
Antetokounmpo,
ouais,
était considérée comme
comme
faible.
faible,
Et
ouais.
comme il a dit, c'est à lui de trouver, c'est à eux de faire le travail et de trouver la perle rare. Donc, comme d'habitude, on fait confiance, hein. De toute façon, nous,
Ouais, c'est
c'est
ça.
pas nous qui allons choisir. Donc.
Bon, une dernière question. Là, il y a les play-in, il y a les playoffs qui s'annoncent bientôt. Malheureusement, les Raptors ne font pas partie. Tes pronostics pour cette saison, est-ce que tu penses Denver va reprendre la coupe comme l'année passée?
Ah, j'ai du mal à voir une équipe à aller chercher Denver.
Ouais.
C'est très fort, Denver. Après, peut-être que je me tromperai. Je pense que New York va faire un bon parcours. Je les vois aller en finale de conférence. Après, il faudra voir. Boston est très fort.
Ah, c'est très fort,
Mais
ouais.
Boston a montré des limites. Et je pense que tactiquement, contre une équipe qui peut les embêter, ils pourraient être éliminés. Mais bah moi, ma finale, c'est Denver-Boston, victoire de Denver.
Ouais. Moi aussi, je vois pas Boston inquiéter Denver parce que Boston, quand les tirs à 3 points ne marchent pas, c'est comme ils n'ont plus de solution.
Exactement.
Ils ont une bonne équipe, ils ont été les meilleurs cette saison dans toute la ligue, mais avec l'expérience de Denver, avec Jokic qui est là et puis les joueurs autour de lui, ça va être difficile vraiment de battre Denver cette année. Ça va être
Ouais.
difficile.
Et puis un dernier mot, on espère que si les Nuggets vont très loin, que Jamal Murray reste en bonne santé et qu'il puisse disputer les Jeux
Les Jeux
Olympiques avec le
Olympiques.
Canada, parce que
Ouais.
ça peut être vraiment exceptionnel, un duo Murray Shai
Et
Gilgeous-Alexander avec
RJ,
RJ,
ouais,
avec Lou
Kelly.
Dort, avec
Mais les
Kelly.
Américains qui reviennent en force avec la Dream Team, là, ils ont annoncé l'équipe, là, ouf!
Ah, ça va être, ça va
Ça
être.
va être
Non,
lui.
ça va être une compétition exceptionnelle parce qu'on a aussi l'équipe de France qui aura Wembanyama et
Wembanyama et
Rudy
Rudy
Gobert dans la
Gobert.
raquette,
Ouais.
et avec Nicolas Batum qui a montré
Waouh, quel
que
match!
il n'est pas prêt de prendre sa
Ben
retraite avec
oui.
un match fantastique. On va le suivre pendant les playoffs là si il continue comme ça. Mais non, ça va être super. Puis il y aura les Serbes, il y aura. Non, non,
Ouais,
ça va être une
c'est
compétition.
pas. En tout cas, merci beaucoup, Mike, d'avoir été avec moi pour parler de un peu le bilan de Raptors. Mais pour les gens qui nous écoutent, comment est-ce qu'ils peuvent te suivre? Je sais que tu es très, très présent sur les réseaux sociaux. Et puis tes vidéos avec RJ, ça a fait des milliers de personnes qui t'ont suivi. Alors, comment est-ce que les gens peuvent te suivre?
Bah déjà sur Twitter ou X, comme vous voulez l'appeler, vraiment au jour le jour, hein, de manière générale, je commente dans tous les sens, des fois ça, c'est même un peu trop. Sinon, le podcast Dino Talk sur toutes les plateformes maintenant, on a débuté sur YouTube, mais il est sur toutes les plateformes de podcast. pour retrouver aussi toutes les interviews en français avec Patrick Bizindavi aussi qui est beaucoup plébiscité dans les commentaires, la star du Burundi.
Ben oui.
Mais oui, voilà. Maintenant, même les interviews, je les poste sur tous les réseaux pour essayer de multiplier un petit peu. TikTok, ça marche super bien, bizarrement. Ouais. Ouais. Instagram un peu moins, et puis sur Twitter, sur YouTube, Mike Laviole Raptors ou Raps. Ouais. Vous mettez Mike Laviole, vous me trouverez. Je suis un peu partout.
J'ai beaucoup contribué à ta notoriété en posant la mauvaise question à RJ qui l'a rendu très fâché, puis ça, la vidéo a fait le tour du monde.
C'est celle qui a le mieux marché.
Ouais. C'est la vidéo qui a...
J'ai mis RJ Barrett agacé par une question en français.
Ah, c'était
puis,
moi.
Bim. Bah oui, le seul mauvais match qu'il fait, tu lui dis oh, bah alors pourquoi vous n'avez pas été bon, qu'est-ce qui a changé?
Ça, et là, rien. Je ne vais pas oublier son visage quand comment il m'a regardé.
Rien n'a changé. Rien.
En tout cas, merci beaucoup Mike pour ta disponibilité. Un grand merci à Nathalie pour son appui technique. En tout cas, comme on dit toujours, Go Raptors.
Go Raptors, et merci pour l'invitation.
Merci. C'était Patrick Bizindavi avec vous au micro sur Choc FM. On va rester avec vous. L'été, on va essayer de parler beaucoup basket aussi, même s'il n'y aura pas de match NBA. Mais il y aura les Jeux Olympiques. On va parler de l'équipe du Canada et d'autres, la WNBA qui a aussi repêché des grandes stars. Merci encore une fois. Restez branchés sur les ondes Choc FM.